petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Les Jeux Olympiques sont devenus un mythe fondateur de l'humanité contemporaine. Pensez donc, 10 000 athlètes du monde entier, 300 épreuves, 5 à 6 milliards de téléspectateurs. Et comme dans tous les grands mythes, les Jeux Olympiques ont leur rituel, dont celui solennel de l'ouverture. Un mythe et des rites supposent une tradition. En l'occurrence, la référence aux Jeux Olympiques de l'Antiquité grecque serait une pertinente tradition si les philosophies des Jeux modernes et grecs n'étaient pas si différentes, y compris l'invention récente d'une flamme partant d'Olympie qui n'a jamais été grecque. Peu importe, il fallait de tout temps trouver une fête d'enthousiasme populaire, fusionnel et identitaire, tant pour faire exister l'unité d'une Grèce divisée jadis en d'innombrables cités, tout aussi bien que pour faire société d'un monde moderne si fragmenté. Pourquoi le sport ? Parce que le sport, comme tous les jeux, est sans autre enjeu que le fait de jouer. À la différence du travail ou de la guerre, les jeux ne sont pas faits pour produire ou détruire. Certes, il y a l'enjeu de gagner ou perdre, mais le fondateur des Jeux Olympiques, le français Baron Pierre de Coubertin, dès le lancement des Jeux Olympiques en 1894 à la Sorbonne, disait que l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer. Ainsi, tout enjeu semblait alors écarté. Sauf qu'en même temps, Coubertin exprimait la devise des Jeux Olympiques, situs, altius, fortus, c'est-à-dire plus vite, plus haut, plus fort. Oui, il y a bien un enthousiasme populaire, festif des Jeux Olympiques. Mais cet enthousiasme, finalement, s'exacerbe plus par l'esprit de compétition que par celui d'une humanité harmonieuse et pacifique. Alors, en 1921, le comité olympique a cru pouvoir corriger l'esprit volontaire d'affrontement par le mot « ensemble », pour édulcorer un peu. Mais « ensemble » se conjugue très mal avec « toujours plus vite »,« toujours plus haut » et « toujours plus fort ». Il y a des vainqueurs et des vaincus. D'ailleurs, les guerres s'invitent dans les Jeux Olympiques, et cette année, le comité olympique a inventé pour les Russes, je ne sais pas si ça changera d'ici les Jeux, mais a inventé pour les Russes envahisseurs de l'Ukraine une côte mal taillée. Les athlètes russes pourront participer, mais pas sous la bannière du drapeau russe. Mais en dehors des vraies guerres, il y a les conflits dans la course aux médailles et de leur décompte. Les podiums, on le sait, sont objets de conquête. Et contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien, Coubertin, malgré sa complaisance pour les perdants, a toujours milité pour un sport de compétition contre ceux qui préféraient un sport d'exercice physique sans gagnant ni perdant. Coubertin excluait aussi les femmes et il excluait les peuples colonisés. On répète que les Jeux olympiques développent la fraternité entre les peuples. Alors, ce serait effectivement conforme à l'esprit sportif. Mais la fraternité des Jeux olympiques est celle au sein de chaque fratrie, de chaque patrie, chacune mobilisée pour gagner contre les autres. Les valeurs de l'olympisme actuel ne sont pas celles de la Grèce antique. La culture grecque se passionnait d'abord pour la beauté. Les coureurs couraient intégralement nus et leur beauté masculine était un critère très important pour la sélection des athlètes. Heureusement, nous n'en sommes plus là. Les valeurs olympiques d'aujourd'hui sont nées dans l'Angleterre du XIXe siècle plutôt que dans la Grèce antique. Au XIXe siècle, l'Angleterre de la reine Victoria domine le monde, invente la société industrielle et le capitalisme moderne. Cette Angleterre victorienne invente en même temps, le football et le rugby. Ce n'est pas un hasard. L'esprit sportif repose sur des valeurs qui seront celles du capitalisme et de la démocratie libérale, à savoir la volonté de gagner un match ou un marché commercial ou une élection politique. Mais aussi l'idéal commun de respecter les règles du jeu et de respecter l'adversaire. Enfin, le sport anglais développe dès les patronages anglais, les enfants anglais, l'esprit d'équipe et de fair play du vainqueur comme du vaincu. Les Jeux olympiques sont donc la grand-messe de ces valeurs modernes. En revanche, une valeur nouvelle est apparue, la sauvegarde de la planète. Les Jeux olympiques, avec ses quantités de transport et de construction, ne respectent guère l'idéal écologique. Des centaines de milliers de visiteurs, voire des millions, vont surconsommer. Exception cependant. Pour les Jeux olympiques, la Seine est dépolluée. Les nageurs et nageuses pourront l'utiliser pendant et après les Jeux. C'est bien, mais ça coûte cher. Pourtant, les Jeux de Paris 2024 ont su contenir leur budget autour de 9 milliards d'euros, moitié argent public, moitié argent privé. Et Paris 2024, eh bien, est moins dépensier que bien d'autres villes organisatrices des Jeux olympiques du passé. Par ailleurs, 9 milliards d'euros correspondent seulement à 0,3% du PIB de la France. Mais le principal bénéfice géopolitique est l'énorme valorisation du soft power de la France, qui est un prestige immatériel. Le soft power n'est pas la brutale puissance économique ni la brusque puissance militaire. C'est un pouvoir géopolitique, mais qui tient plus de la séduction populaire que de la capacité de nuire. La Grèce moderne bénéficie d'un soft power provenant de sa glorieuse antiquité. Mais les Jeux olympiques n'ont pas qu'une incidence sociopolitique. Je veux parler ici d'une dimension spirituelle, oui, de l'esprit sportif, qui cultive un paradoxe étonnant et heureux. Dans le travail ou la vie quotidienne, nous cherchons ce qui rapporte un pouvoir d'achat et donne des possibilités de confort. Or, dans le sport amateur, mais tout sportif commence par être amateur. Donc, dans le sport, j'aime me dépenser et me dépasser dans l'effort, dans la pénibilité, dans le don de soi à l'action, au risque, à la difficulté. C'est surprenant et exaltant. Nietzsche a bien compris cette conversion, cette transvaluation du mode de vie apaisé en mode de vie intense. On retrouve cette joie, à la fois exaltée et tragique, dans le mythe sportif de Jonathan Livingston, le goéland, qui s'affirme en surpassant sa vitesse à tout moment et sans cesse, et vit sa mort comme un instant d'éternité. Mais Nietzsche avoue l'échec de sa philosophie du don éperdu de soi. Dans son Zarathoustra, il s'écrit, je cite, « Aux misères de tous ceux qui donnent ». Car le sportif le sait bien et le sent bien. Il s'exaspère chaque jour à vouloir s'exalter dans le don toujours accéléré et de lui-même et à l'action. La joie du don de soi est évidemment centrifuge, le don de soi est centrifuge. Or, la recherche de son frisson dans l'action ne prend son essor que dans un souci de soi, un égocentrisme, une forme centripète, en contradiction avec la joie émerveillée de l'ouverture à l'altérité. Seul l'appel transcendant de Dieu à me donner, à aimer, peut me libérer de ce refermement sur moi. Ainsi, saint Paul utilise souvent l'analogie du sport pour rendre compte de sa spiritualité, comme dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 2, « Je ne voulais pas risquer de courir et d'avoir couru pour rien. »
C'était « Petit philosophe dans le vaste monde », une émission de Bernard Ribal.